Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Les questions de logement, d'hébergement sont au cœur de la vie quotidienne des Français, de leurs préoccupations. La crise de l'immobilier frappe les accédants à la propriété, la pénurie d'offres de loyers à un prix abordable touche les locataires. Le manque flagrant d'hébergement d'urgence conduit des personnes à dormir dans la rue, familles et enfants compris. Lors de l'émission précédente, nous avons regardé ce phénomène de notre société avec Marion Lièvre, anthropologue, spécialiste du sans-abrisme. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ces questions de manière plus légère, quoique importante, avec Magali Boisseau, dirigeante de Bedicas. Vous entendez ce qui se dit Bedicas, un lit en anglais et maison en espagnol, ça raconte bien sûr quelque chose. Magali Boisseau, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous avez décroché, vous avez décroché un master de commerce international à l'Université d'Avignon. En 2007, on en parlera, vous avez lancé Bedicas. Une brillante trajectoire s'en est suivie, brutalement achevée en 2019. Vous nous l'expliquerez. Mais vous avez gardé le cap en relançant Bedicas avec de nouvelles orientations. Bedicas saison 2, en quelque sorte. Mais d'abord, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Alors, plus que des lieux, moi, je parlerai d'âme à Montpellier.
L'atmosphère particulière de la ville ou le...
Ouais, cet esprit de bienveillance, de non-jugement. Alors, peut-être que je suis un peu idéaliste, mais quand on va dans d'autres villes, à Paris ou à Lyon, on n'a pas cet esprit-là. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout la même taille de ville, mais malgré le fait qu'il y ait, bon, clairement de la pauvreté, hein, de plus en plus à Montpellier, il y a quand même cet esprit de bienveillance. Et par exemple, quand vous rentrez dans le bus, vous sortez du bus, même s'il est blindé, vous dites merci, au revoir. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je prends les transports en commun et je trouve toujours ça extraordinaire d'avoir un bus blindé et de dire merci, au revoir.
Voilà. Alors, on ne le fait pas au tram parce que le chauffeur est isolé dans sa cabine, mais j'ai pris le bus ce matin, je confirme.
Voilà. Et donc, au-delà de ça, moi, j'adore... la place de la Comédie, c'est un classique, mais j'aime bien aller au Pic Saint-Loup aussi. Alors, ça, on sort de Montpellier. Moi, je suis très nature. Donc, en fait, j'ai besoin d'aller piquer une tête dans la mer, et puis aller voir les flamants roses. Je suis très nature et animaux et me mettre dans la végétation avec tous les oiseaux et tout ça, toute cette luminosité qu'on a à Montpellier et qui représente bien, justement, cet esprit de bienveillance et cette âme de Montpellier.
Il y a peut-être aussi une espèce d'hédonisme, un plaisir de vivre qu'on ressent à Montpellier, la proximité de la mer. Vous êtes probablement également sensible.
Oui, la mer et la montagne, ça c'est effectivement quelque chose qui nous
Quand des amis ou des parents sont de passage, que leur dites-vous de Montpellier? Comment vous faites le guide là, gratuit de l'office de tourisme pour les inciter à aller où?
Alors en fait, moi j'avais même monté Montpellier Greeters, j'ai encore des contacts, j'ai encore des gens qui veulent être bénévoles et puis je reçois des messages tout le temps de personnes qui veulent du coup que je les accompagne. J'ai malheureusement plus du tout le temps en tant qu'entrepreneuse, j'aimerais bien, mais c'est mon temps, il est très très compressé, surtout avec un petit garçon de 5 ans et donc je peux plus faire la guide malheureusement.
D'accord. Alors dernière question. Bon, vous avez vu la ville grandir en urbanisme, avec les conséquences que ça a d'ailleurs sur un secteur que vous suivez. Il y a des jugements partagés sur la croissance de la ville. Quel est le vôtre?
Alors, si vous regardez sur le site villeidéal.fr, vous voyez une notation très très basse. C'est 4 sur 10. C'est l'une des pires notations de France. Mais enfin, après, vous voyez Nantes, c'est pareil. Bordeaux, pareil. J'aurais pas du tout pensé que Bordeaux, c'était pareil. Enfin bref. Et donc, du coup, c'est vrai que quand vous vous baladez, au fil des années, vous voyez de plus en plus de pauvreté. Et même des jeunes avec leurs chiens, leurs animaux. Et ça s'est accru. Enfin, moi, après, c'est une impression, mais les statistiques le confirment. Et on se dit, mince, comment c'est possible avec... Enfin, moi, je me dis, mais Coluche, que j'adore, il doit se retomber dans sa tombe avec toutes ces personnes qui sont voilà, aux abois dehors, quoi, enfin, clairement. Et c'est dommage pour une ville aussi jolie, avec cette âme aussi belle, d'avoir aussi bah, forcément de la délinquance, parce que quand les gens, vous leur donnez rien, vous leur donnez pas de cadre, les jeunes notamment, et qui sont dehors, ils n'ont pas de cadre, et puis ces mouvements migratoires, bah, forcément, ils vont aller dans la drogue, ils vont se chercher, en fait, du sens à leur vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et, mais il n'y a pas que Montpellier qui est touché, c'est toutes les villes de France qui sont comme ça. Mais c'est vrai que, et même les villages, même les petites villes, mais ça va s'accentuer avec les flux migratoires. Il y a 1 milliard de personnes qui est en train de se déplacer à cause du réchauffement climatique. Donc déjà, on n'arrive pas à accueillir 200 000 personnes en France. Comment on peut accueillir 1 milliard de personnes? Bon, ça, alors, c'est un côté un... ça, c'est mon côté voilà. Un peu politique, idéologique.
Non, mais c'est un sujet. J'ai accueilli, précédemment d'émission, le porte-parole pour l'Occitanie de l'Est-Ouest Méditerranée. Donc, on a parlé bien de sûr. Ce sujet il y a peu à cette antenne. Alors, on va quand même revenir à Medicas pour parler de ce que vous faites. Alors, d'abord, au départ, cette orientation vers les questions du logement, elle a tenu à quoi? Une étude de marketing, une analyse ou un goût personnel pour ce domaine? Qu'est-ce qu'elle était le déclic de cette orientation, à la fois, si je comprends bien, personnelle et professionnelle?
En fait, le constat, c'est que moi, je n'avais pas forcément les moyens de voyager. Et donc, j'ai commencé à voyager chez l'habitant en tant qu'étudiante. Et je me suis constituée un carnet d'adresses. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir découvrir d'autres cultures, mais vraiment en immersion. Parce qu'on a vraiment un... Puis vous êtes bien placée pour le savoir, vous êtes journaliste. On a forcément un décalage entre la réalité et ce qui se passe vraiment dans les médias et la réalité sur le terrain. Et notamment, je me rappelle, donc je suis allée plusieurs fois en Russie, à Moscou. Donc là, on est en plein dedans hein, avec l'actualité. J'étais au 13e étage d'une tour en Moscovitch. Et en fait, j'étais accueillie dans une famille adorable russe avec Mariana Volkanova, avec qui je suis toujours en contact. Maintenant, elle n'héberge plus chez elle. Mais c'était une prof de français en Russie. Et elle m'a expliqué plein de choses sur la Russie. Et maintenant, je le vois d'une façon différente. Évidemment. Et je comprends pourquoi il a été réélu. Parce que voilà, il y a plein de choses derrière qu'il faut comprendre. Mais en étant chez l'habitant, en fait, vous avez la vérité. Quand forcément ils veulent bien vous la donner, mais c'est un petit peu pour moi la pilule bleue et la pilule rouge du film Matrix. C'est on mange la pilule bleue et on suit les rails et en fait on est dans un rêve mais qui n'est pas forcément la réalité mais qui est sympa, et si on mange la pilule rouge on est dans la réalité, elle est un petit peu dure, faut se battre pour s'en sortir, mais c'est la réalité quoi. Et donc moi en allant chez l'habitant, je remarque ces réalités et j'adore ça, voilà.
Donc ça c'était le facteur pour le coup personnel de votre rapport aux autres qui vous a conduit sur une voie professionnelle, pour le coup.
Oui, tout à fait. C'est les gens, en fait. C'est d'être au sein de cultures différentes. J'aime aider. Et je me suis rendu compte au fil des années que la situation empirait au niveau du logement, la crise du logement, et tout est écrit, finalement. Comme le rapport du GIEC et comme le rapport de Rome en 1957 et tous ces scientifiques qui alertaient sur le dérèglement climatique, c'est exactement la même chose qui se passe actuellement. C'était écrit, je l'ai vu se produire au niveau des dérives des grandes plateformes de location saisonnière à courte durée. En fait, c'est tout simplement humain. C'est que les investisseurs, quand ils ont vu qu'ils pouvaient faire 10 fois plus en un mois en investissant et en le louant à des touristes, ils ont retiré les biens locatifs qui étaient dédiés aux étudiants, mais également aux familles. Et donc, du coup, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se loger, quoi, tout simplement. Et les prix ont augmenté. Enfin, c'est ce que j'ai évoqué terrible.
En introduction. Alors, Medicas, grande ligne, bien entendu, on n'est pas là pour refaire l'historique complet, mais quand même, pour bien faire comprendre aux auditeurs cette première grande étape, puis on parlera, bien sûr, de celle que vous activez actuellement. Alors, l'idée, la formule qui a fait Flores, c'était Airbnb avant la lettre. Quelle était l'offre? Et surtout, cette offre et sa spécificité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas été un échec.
Vous parlez d'Airbnb ou de
oui,
Bédicace pour,
voilà, non, ah, oui. Non, non, Bédicace, bien, Bédicace saison 1 pour reprendre la formule. Bah...
Bah, Bédicace saison 1, c'est que, en fait, moi, j'ai créé Bédicace avant Airbnb. Ils sont arrivés 5 ans plus tard sur le marché français. Et tout simplement, quand ils sont arrivés, ils ont levé des millions, puis après des milliards. Et vous savez que la différence entre la France et les États-Unis, c'est que les États-Unis, bah, ils investissent, ils risquent. Clairement très fort, c'est pour ça qu'on a des grosses plateformes comme on n'a pas de Google en France, on n'a pas de Yahoo quoi. Donc bon, il y a Doctolib qui a fait quand même, qui a osé hein, donc ça c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait parce que du coup ils ont disrupté une économie. Mais bon, en tout cas pour Bédicassa, nous on a évolué de façon très prudente et ensuite on a eu cette courbe exponentielle. Et c'est au moment où on a cette courbe exponentielle, où on avait 400 000 membres, 60 000 logements dans 185 pays, on faisait des rendez-vous chez l'habitant, ça marchait super bien, c'était hyper agréable, on montait à 30 personnes. Bon, c'est là que j'ai eu un fonds d'investissement qui a voulu prendre le pouvoir sur moi et mes associés, et là, ça a mis la zizanie dans la table de capitalisation, comme on dit. Et donc, c'était plus possible, ouais. En fait, de continuer comme ça. Voilà, donc, ça s'est arrêté.
C'est ça. L'enjeu financier était tel, vu le succès, vu la trajectoire, que vous étiez en passe de déposséder de votre pouvoir. Et donc, voilà. Donc, fin de l'histoire.
Ouais, alors... mais oui. Puis moi, je me reconnaissais plus. Il n'y avait plus d'âme, en fait, dans tout ce que j'avais construit, quoi. Donc, je passais plus de temps, en fait, à servir les égos, à adoucir les égos des uns et des autres, que à vraiment être avec mon équipe, à développer le produit avec les clients, ce que j'aime en fait. Donc, il n'y avait plus de sens dans ce que je faisais.
Alors, bien sûr, il y a eu un acquis de cet grand épisode qui a duré une dizaine d'années. Hein. Cet acquis, quel était-il et en quoi a-t-il permis de vous appuyer pour repenser complètement, pour le coup, Bédicace saison 2 là. Quel était l'acquis?
Vous savez, quand on crée ce qu'on appelle une marketplace, une plateforme orientée, quand on dit B2C, c'est business to consumer, donc c'est aux particuliers. On a deux offres, on a l'offre et la demande, et on doit faire monter les deux en même temps. Et le plus difficile quand on crée de zéro une plateforme, c'est d'avoir la communauté, et une communauté qui est engagée. Donc en fait... Moi, j'y suis toujours allée de façon très sincère et naturelle. Je suis allée dormir chez des centaines de personnes. Je connais la vie et les histoires des gens. Et en fait, c'est ça, notre plus grande force chez Bédicassa. C'est que c'est les gens, tout simplement. C'est l'histoire des gens.
Le poids humain.
Le poids humain que j'ai sur mon épaule. Et j'ai l'impression d'avoir une promesse que je dois tenir. Et tant que je n'aurai pas les deux pieds sous terre, je la tiendrai et j'irai jusqu'au bout.
Ça, les auditeurs et auditrices en jugeront. Alors, quels sont les grands principes, je dirais, les orientations de base sur lesquelles vous avez repensé Bédicace?
Bédicace, maintenant, c'est... je le fais autrement, de façon plus sobre, avec la communauté, parce que on va pas... On sait qu'on a un empire devant nous et qu'on a des gens qui sont brillantissimes. Devant nous, c'est voilà, l'Américain. Mais on sait aussi que, en fait, beaucoup d'hébergeurs et de voyageurs reviennent vers nous aujourd'hui parce qu'ils sont mal servis en face. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas écoutés, le service client est sous-traité, donc du coup, c'est robotisé. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est bien entendu automatiser les tâches répétitives, mais surtout servir et écouter. La détresse humaine, et ou l'humain, ou servir l'humain. On a deux missions chez Bédicassa. On est une entreprise à mission. On défend le droit au logement et on lutte contre le tourisme de masse tout en ayant une empreinte positive sur l'environnement. Donc en fait, l'habitat pour nous, c'est un levier d'action pour pouvoir agir sur la biodiversité. Mais pour ça, il faut régler la crise du logement. Et la crise du logement, je rappelle, c'est 5 millions de personnes au total en France qui ont des passoires thermiques. Donc, ils ne peuvent pas accueillir s'ils perdent en énergie ou s'ils ont de grosses factures énergétiques.
Alors, stratégie de niche, comme on pourrait l'appeler, mais avec un niveau, je dirais, d'exigence et des valeurs très élevées, qui peuvent donner l'impression qu'il s'agit de miroir aux alouettes, hein, parce que, bon, les grandes valeurs, responsabilité, durabilité, etc., transparence... c'est de l'affichage, bon, c'est normal, mais comment ça se concrétise? Parce qu'on a envie de vous amener sur ce terrain, vous l'avez déjà évoqué, un engagement personnel, un corps de conviction qui se traduise dans ce domaine, bien entendu avec une entreprise qui s'efforce de gagner sa vie, ce qui est bien légitime.
Alors, c'est très concret. En fait, sur tous les pans de notre entreprise, au niveau capitalistique déjà, le pouvoir est à la communauté. Donc là, ce n'est pas un fonds d'investissement qui va détenir le pouvoir, c'est la communauté qui détient le pouvoir autant que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans mon entreprise. On écoute, on fait des visioconférences, on les invite au comité stratégique et puis on décide ensemble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 180 actionnaires dans Medicassa. C'est que des étudiants, des familles, des retraités. Et on a deux petits fonds à impact qui sont complètement alignés sur nos missions, nos valeurs. On a également un capital, un marketing participatif. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un euro à Google Google AdWords ou Facebook. Nous, on reverse des crédits voyage ou des crédits accueil à la communauté pour évaluer les biens du site et également être prescripteur de ces biens sur place.
D'accord, une espèce de rémunération, un terme qui fonctionne, qui circule comme ça.
Ça revient, effectivement, ça crée un cercle vertueux, du coup, puisque les uns, après, peuvent aller chez les autres, voyager gratuitement grâce au crédit voyage, par exemple.
Alors, il faut parler de l'offre, quand même, les différents volets de l'offre.
Ouais.
Alors bon, parce qu'il y a du logement provisoire, il peut y avoir, il y a télétravail, il y a différentes formes de logement ou d'hébergement. Dites-nous-en un petit mot.
Oui, alors on a deux types d'offres. La première qui répond à la crise du logement dans les grandes villes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on on est 8 milliards de personnes sur Terre, il y a 4 milliards de personnes dans les grandes villes. Et selon l'ONU, en 2050, on va être 70%, donc ça s'étend de plus en plus. Et donc du coup, la crise du logement est encore plus tendue qu'avant. Donc nous, on crée un statut qui s'appelle le statut de résident temporaire chez l'habitant, qui répond à la demande de l'alternant, par exemple, de l'étudiant, du télétravailleur, du travailleur saisonnier, ou en fait de tous les métiers à tension aujourd'hui, également les personnels médicaux, et également des besoins personnels. Par exemple, vous allez rejoindre un proche en ville, votre proche ne peut pas vous accueillir, vous allez être accueilli chez l'habitant, tout en ayant votre autonomie, votre vie privée. Et également pour tout ce qui est médical, on avait historiquement un partenariat avec l'hôpital de Montpellier pour que des accompagnants puissent aller voir leurs proches victimes d'un cancer et donc ils étaient hébergés chez l'habitant. Ça leur permettait du coup d'aller les voir, sinon ils n'auraient pas eu les moyens à l'hôtel.
Alors, en complément, je vous ai passé à l'autopromotion pour l'émission. On a reçu une personne, je me dis son nom, qui a créé une maison d'accueil à la Vitarelle pour les familles de patients, pour répondre exactement aux mêmes mesures. Alors, la question aussi attendue, là, combien ça coûte à chacune des deux parties, la personne accueillie, l'occupant ou le voyageur, et l'hébergeur?
Alors, pour répondre à cette question, je vais aussi développer l'autre offre qui est hors des grandes villes, qui répond au tourisme de masse. Donc nous, on veut désengorger les grandes villes et donc proposer des offres du type chambre d'hôte, tiny house, écologe, avec des activités artisanales, culturelles et de nature et bien-être. Donc, il y a deux offres différentes. Dans les grandes villes, ça va se situer plutôt aux alentours de 40 euros à 60 euros pour Paris, par exemple, pour du logement chez l'habitant, en chambre chez l'habitant. De l'appartement, ça va être plutôt aux alentours de 80 euros, 90 euros. Et ensuite, pour tout ce qui est maison d'hôte, là, on va être sur des tarifs de 90 à 100, 110, 120 euros, les tarifs en fait, qui sont pratiqués dans les villages. Et nous, notre objectif, c'est de faire justement des partenariats avec les communautés de communes pour pouvoir faire connaître ces zones rurales qui sont isolées. Aussi un accord tripartite avec les employeurs qui ont du mal à recruter, par exemple, des travailleurs saisonniers pour recruter des personnes et donc se porter garant aussi au niveau du logement. Donc, c'est une grande mission aussi politique.
Alors oui, ça, effectivement, ça m'avait frappé quand j'avais préparé l'émission. Il y a une connaissance du phénomène urbain, une prise en compte du phénomène urbain, mais il y a aussi l'idée de proposer une alternative en termes de logement et d'hébergement à la croissance urbaine très forte, en effet, comme vous l'avez évoqué. Donc ouais, cette composante, je dirais, campagnarde ou rurale.
Ouais. Les villes s'étendent de plus en plus. Et puis, le réflexe, c'est d'aller tout le temps dans le centre de Barcelone, dans le centre de Paris. Nous, on veut participer à la désengorgement de ces grandes villes pour pouvoir bah, leur faire découvrir autre chose et autre chose de bien plus intéressant que toujours les mêmes sites, en fait.
Voilà. On voit bien que ça correspond à une demande forte là, en la matière, mais que vous êtes forcé de satisfaire. Alors, j'avais entendu parler, moi, il y a quelques années de Bodycast, sans plus, et là, bon, j'ai vu votre proposition de travail pour héberger les participants aux Jeux Olympiques, avec une offre de logement éthique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un coup de com', ça. Alors, racontez-nous de quoi ça provient et qu'est-ce qui se passe?
Alors, en fait, tout simplement parce qu'on a les retours, justement, des dérives de l'américain. Donc, très concrètement, les propriétaires d'appartements, ils vont vous proposer la nuit à 300 à 600 euros la nuit chez eux. Et nous, on fait une pression positive bienveillante autour de personnes qui... Alors, c'est une minorité, bien entendu, je vais être très sincère. Pour l'instant, c'est une minorité, mais c'est grandissant et qui propose aux alentours de 80 à 100 euros la nuit chez eux pour accueillir des personnes qui ont pris leur billet pour les Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas de logement. Donc, c'est le cas des bénévoles, par exemple. On a accueilli des bénévoles, là, chez Frédéric, à 80 euros la nuit. Et voilà, c'est encore raisonnable comme tarif. Et en fait, c'est simplement de jouer le jeu. Et pour nous, c'est aussi un levier pour dire, si on arrive à faire ce test-là, on peut peut-être l'élargir pour toutes les personnes qui veulent accueillir non pas des touristes, mais plutôt des personnes qui sont dans un besoin sociétal, professionnel ou un besoin personnel.
Alors, cette offre, elle est en partie concurrente avec le bas de gamme, entre guillemets, de l'offre hôtelière. Exemple personnel, Coupe du monde de rugby, j'avais une nuit à passer à Marseille, j'ai pas trouvé de chambre correcte à moins de 200 euros.
Ouais.
Un jour de match. Donc, ouais. C'est le même phénomène.
Ouais, hein. C'est le même phénomène. Mais je pense qu'on doit vraiment agir ensemble. Alors, peut-être que je suis encore trop idéologique, mais on doit créer un écosystème, en fait. Et donc, voilà, avec tous les acteurs. Par exemple, les hôtels, nous, on avait fait des partenariats avec la chaîne hôtelière Ibis Hôtel. Quand ils n'avaient pas suffisamment de logements, ils venaient vers nous et puis vice-versa, vous voyez. Donc, c'est complètement complémentaire. Donc, il faut être dans un écosystème et il faut jouer ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec le Club à Impact. D'ailleurs, on a des entreprises qui viennent financer le Club à Impact. Et donc, du coup, ça aide les particuliers à équiper leur logement durablement. Et ensuite, on a 5% du chiffre qui est reversé à des associations sociales et environnementales pour restaurer les coraux dans la Méditerranée, pour replanter plus d'arbres, évidemment. Et pour sortir les personnes de l'exclusion avec des logements solidaires, là, pour le coup.
Alors, on n'a pas précisé que Bodycast fait partie de l'économie sociale et solidaire. Mais oui. On voit bien ce vaste secteur, assez méconnu d'ailleurs, mais très diversifié et très actif. Là aussi, ça, c'est un choix délibéré de votre part.
Oui, il faut savoir qu'avec la loi Pacte de 2019, ça s'est bien développé en France. Aujourd'hui, on est 15 000 entreprises à faire partie du mouvement Impact France. Donc, à faire partie de cet écosystème d'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin d'agir ensemble. Donc, on doit être dans un écosystème et on ne doit plus rester seul de son côté parce que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Et ça passe d'abord par l'humain. Pour pouvoir résoudre les problèmes climatiques, on doit convaincre l'humain.
Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. Quels sont les projets bien avancés, là, les développements sur lesquels vous travaillez actuellement?
Alors, dans Bodycast, on a une mission aujourd'hui politique. C'est de faire des partenariats, des conventions écosystémiques avec les communautés de communes et les employeurs qui font partie des métiers à tension, mais également les universités, les lycées pour tout ce qui est alternance, parce que dans 60% des cas, quand l'alternant n'a pas de logement, ça impacte sa carrière, il n'a pas de stage. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de créer cet écosystème à travers la France et ensuite de le reproduire en Espagne et en Italie, parce que la même chose se passe en Espagne et en Italie. Là, on a réouvert l'Espagne et l'Italie, d'ailleurs, depuis 3 semaines. Donc, on a de nouveau des logements espagnols et italiens et on a une forte demande de la part des hébergeurs à être sur Bodycast, parce qu'ils attendaient en fait une alternative éthique aux grosses plateformes américaines auprès desquelles ils ne sont pas écoutés.
Donc là, vous retournez sur vos pas en quelque sorte, du développement international que Bellicas saison 1 avait connu.
Oui, sauf qu'on va plus avoir un aspect domicile ou limitrophe à la France pour aussi éviter les émissions de gaz à effet de serre que vous connaissez quand on prend l'avion et quand on va à l'Ouboudoumé. Par exemple, on s'est dit que les États-Unis, on n'allait pas le développer. L'Asie, on ne va pas développer l'Asie non plus. Cuba, c'est historique chez Bellicasa. On a énormément de Cubains, c'est latino. Voilà, on avait une grosse communauté cubaine. Donc, on a fait des circuits chez l'habitant à Cuba. Donc, c'est un peu l'exception, en fait, Cuba. Mais sinon, le reste, par exemple, l'Amérique latine, on essaiera de développer plutôt Colombie en Colombie pour ceux qui cherchent des logements en Colombie ou limitrophes à la Colombie. Bah, pareil pour le Mexique. Mais aujourd'hui, on se focalise vraiment sur la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Voilà, vraiment en Méditerranée.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez offert une trentaine de collaborateurs à grande époque là-haut, à l'apogée de Bellicas saison 1. Ouais. Et là, votre équipe, combien de personnes, quel profil là, comment, vous en parlez beaucoup là, j'ai plusieurs de votre collaboratrice. Bon, on sent des choses, même au téléphone. Hein. Comment ça se passe dans l'équipe là?
Ouais. Alors aujourd'hui, on est 100% digital. C'est aussi, ça fait partie de notre sobriété. Donc, on n'a pas de bureau. Et ça nous économise, ça nous fait gagner en économie de coûts, mais également en agilité. Et donc, au niveau des transports, etc. On n'est que des femmes. On a deux hommes qui nous aident pour le développement du site. Donc, c'est moi qui suis développeuse, mais on m'aide fort heureusement pour le développement. Et c'est vrai qu'on est toutes associées à Bellicasa. Voilà, donc, et puis auto-entrepreneuse. Moi, je suis la seule salariée aujourd'hui et on recherche des moyens aussi de nous sécuriser au niveau perte d'emploi, prévoyance, etc. Et c'est un dossier sur lequel je travaille actuellement. Donc, elles pourront devenir salariées, mais elles auront toujours leur part d'entrepreneuse avec leur autre activité, ce qui est important, je pense, dans la réorganisation aussi du travail.
Alors, on l'a compris, les auditeurs, l'ont compris, quelque chose d'atypique hein, dans votre manière de faire, dans votre parcours. Et ça a dû engendrer dans les périodes difficiles, et j'imagine encore aujourd'hui, des idées reçues, des faussetés sur votre métier et sur votre manière particulière de le faire. Alors, on va essayer, pour conclure, de tuer quelques-unes de ces idées reçues. Quelles sont-elles ?
Déjà, la première idée, c'est que j'ai tout délégué, alors qu'en fait, j'ai redéveloppé de zéro Bellicasa toute seule. La deuxième idée aussi, c'est donc ça veut dire que c'est possible, mais il faut de la persévérance et du travail assidu, acharné. La deuxième idée, c'est que j'ai planté ma boîte. Non, c'est un investisseur qui a planté Bellicasa et qui m'a fait porter le chapeau. Et donc, j'ai eu des articles pas très sympas.
Articles, mais des retombées aussi.
Des retombées.
Judiciaires ou financières?
Alors non. Non, parce que du coup, on a essayé de me mettre en demeure quand j'ai voulu reprendre Bellicasa, mais on n'a pas réussi puisque je l'ai repris légalement.
Vous êtes resté propriétaire de la marque?
Je suis resté propriétaire de la marque, oui.
Et autre idée reçue encore, autre chose qui vous agace parce que c'est totalement inexact, quand on parle de vous, quand on vous interpelle ou quand on vous agresse même. Non.
Une idée reçue, c'est que on me prend pour une jeune alors que j'ai 40 ans et que j'ai un petit garçon et que voilà. Enfin, je crois que je fais toujours jeune dans l'esprit, mais j'ai une grosse expérience derrière et beaucoup de douleurs que j'ai transformées en force positive. Alors, je ne sais pas si c'est des idées reçues. Tout ce que je vois, c'est que l'avenir est devant nous et que les codes d'avant ne fonctionnent plus et ils ont généré aussi ce chaos et on ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, on change nos codes.
Changeons nos codes. Merci, Magali Boisseau. Et à une prochaine fois. Merci à vous.
Merci, Alain.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.